L'observance de la loi peut-elle nous sauver? Luc, chapitre 10, versets 25 à 30. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui l'y tue ?» Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela, et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole, et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. » Quel est le plus gros problème d'un humain? Ils vivent avec de nombreuses illusions erronées. Luc, chapitre 10, verset 28, « Fais cela, et tu vivras. » Les gens vivent avec de nombreuses illusions erronées. Il semble qu'ils soient particulièrement vulnérables à cet égard. Ils semblent être intelligents, mais sont facilement trompés et restent inconscients de leur côté mauvais. Nous naissons sans nous connaître, mais nous vivons toujours comme si nous le faisions. Parce que les gens ne se connaissent pas eux-mêmes, la Bible nous dit que nous sommes des pécheurs. Les gens parlent de l'existence de leurs propres péchés. Et ils sont incapables de faire le bien, mais ils sont trop enclins à se caractériser comme bons. Ils veulent se vanter de leurs bonnes œuvres et se montrer. Ils disent qu'ils sont des pécheurs, mais agissent comme s'ils étaient très bons. Ils savent qu'ils n'ont ni de bien en eux, ni la capacité de faire le bien, mais ils essaient de tromper les autres, et parfois même de se tromper eux-mêmes. Allons, nous ne pouvons pas être complètement maléfiques. Il doit y avoir quelque chose de bon en nous. C'est pourquoi ils regardent les autres et se disent à eux-mêmes, « Mon Dieu, j'aurais souhaité qu'il ne l'ait pas fait. Ça aurait été mieux pour lui s'il ne l'avait pas fait. Ça aurait été bien mieux s'il avait parlé comme ça. Je pense qu'il est mieux de prêcher l'Évangile de telle ou telle manière. Il a été racheté avant moi, donc je pense qu'il devrait agir davantage comme quelqu'un qui a été racheté. J'ai été sauvé récemment, mais si j'apprends davantage, je ferai bien mieux que lui. » Ils aiguisent les couteaux dans leur cœur. « Attends seulement. Tu verras que je ne suis pas comme toi. Alors, tu penses que tu es devant moi maintenant, n'est-ce pas ? Attends seulement. Il est écrit dans la Bible que ceux qui sont les derniers seront les premiers. Je sais que cela s'applique à moi. Attends, et je te montrerai. » Les gens se trompent eux-mêmes. Bien qu'il agirait exactement de la même manière s'il était lui-même à la place de cette personne, il continue néanmoins à le juger. Lorsqu'on demande si les gens ont la capacité de faire le bien, la plupart des gens disent qu'ils ne l'ont pas. Mais ils ont l'illusion qu'eux-mêmes ont la capacité. Alors ils essaient fort jusqu'à leur mort. Ils pensent qu'ils ont de la « bonté » dans leur cœur, qu'ils ont la capacité de faire le bien. Ils pensent aussi qu'eux-mêmes sont assez bons. Peu importe depuis combien de temps ils sont nés de nouveau, même ceux qui ont fait de plus grands progrès dans le service de Dieu pensent « Je peux faire ceci et cela pour le Seigneur. » Mais si nous enlevons notre Seigneur de nos vies, pouvons-nous vraiment faire le bien? Y a-t-il du bien dans l'humanité? Peut-il vivre en faisant de bonnes œuvres? Les êtres humains n'ont pas la capacité de faire le bien. Chaque fois que les humains essaient de faire quelque chose par eux-mêmes, ils pêchent. Certains mettent Jésus de côté après avoir été rachetés et essaient de faire le bien par eux-mêmes. Il n'y a que du mal en nous tous. Nous ne pouvons que pratiquer le mal. Par nous-mêmes, même ceux qui ont été sauvés, nous ne pouvons que pécher. C'est la réalité de notre chair. Que faisons-nous toujours, le bien ou le mal ? Le mal. Dans notre livre de louanges, Louez le Seigneur, il y a une chanson qui dit ceci : Un corps sans valeur qui fait des erreurs sans Jésus, sans toi je suis comme un bateau sans voile naviguant sur la mer. Sans Jésus, nous ne pouvons que pécher. Nous sommes justes seulement parce que nous avons été sauvés. En réalité, nous sommes mauvais. L'apôtre Paul a dit : Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Romains, chapitre 7, verset 19. Si une personne est avec Jésus, cela n'a pas d'importance. Mais quand il n'a rien à voir avec lui, il essaie de faire le bien devant Dieu. Mais plus il essaie, plus il se retrouve à pratiquer le mal. Même le roi David avait la même nature. Quand son pays était paisible et prospère, Un soir, il monta sur le toit pour se promener. Il vit une image tentante et succomba au plaisir sensuel. Comment était-il lorsqu'il avait oublié le Seigneur? Il était vraiment mauvais. Il a tué Uri et a pris sa femme, mais David ne pouvait pas voir le mal en lui-même. Il trouvait des excuses pour ses actions. Puis un jour, le prophète Nathan est venu vers lui et lui a dit : Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Deuxième livre de Samuel, chapitre 12, versets 1 à 4. David a dit : L'homme qui a fait cela doit sûrement mourir. Sa colère s'est grandement enflammée, alors il a dit : Il a tant de choses à lui, il pourrait sûrement en prendre une. Mais il a pris le seul agneau du pauvre pour préparer de la nourriture pour son invité. Il devrait mourir. Et Nathan lui a dit : Tuez cet homme. Si nous ne suivons pas Jésus et ne sommes pas avec lui, même ceux qui sont nés de nouveau peuvent être comme ça. C'est la même chose pour tous les hommes, même les fidèles. Nous trébuchons toujours sans Jésus et faisons le mal. Alors nous sommes à nouveau reconnaissants aujourd'hui que Jésus nous a sauvés malgré le mal en nous. Je veux me reposer à l'ombre de la croix. Nos cœurs se reposent à l'ombre de la rédemption du Christ. Mais si nous quittons l'ombre et nous regardons nous-mêmes, nous ne pouvons jamais nous reposer. Dieu nous a donné la justice de la foi avant la loi. Laquelle est antérieure, la foi ou la loi? La foi. L'apôtre Paul a dit que Dieu nous a donné la justice qui vient de la foi en premier. La justice de la foi est venue en premier. Il l'a donnée à Adam et Ève, à Abel, puis à Seth et Enoch, jusqu'à Noé, puis à Abraham, puis à Isaac, à Jacob et à ses 12 fils. Même sans la loi, ils sont devenus justes devant Dieu par leur foi en sa parole. Ils ont été bénis et ont obtenu le repos par leur foi en sa parole. Et le temps passa, et les descendants de Jacob vécurent en Égypte comme esclaves pendant 400 ans à cause de Joseph. Puis Dieu les fit sortir par Moïse vers le pays de Canaan. Cependant, pendant les 400 ans d'esclavage, ils avaient oublié la justice de la foi. Alors Dieu leur permit de traverser la mer Rouge par son miracle et les conduisit dans le désert. Lorsqu'ils atteignirent le désert de Sin, il leur donna la loi au mont Sinaï. Il leur donna les 10 commandements, qui contiennent 613 articles détaillés de la loi. Je suis le Seigneur votre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Que Moïse monte au mont Sinaï, et je vous donnerai la loi. Dieu a donné la loi à Israël. Il leur a donné la loi afin qu'ils aient la connaissance du péché. Romains, chapitre 3, verset 20. C'était pour leur faire savoir ce qu'il aimait et ce qu'il n'aimait pas, et pour révéler sa justice et sa sainteté. Tout le peuple d'Israël qui avait été asservi en Égypte pendant 400 ans a traversé la mer Rouge. Ils n'avaient jamais rencontré le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ils ne le connaissaient pas. Et pendant qu'ils vivaient comme esclaves pendant ces 400 ans, ils avaient oublié la justice de Dieu. À cette époque, ils n'avaient pas de leader. Jacob et Joseph étaient leurs leaders, mais ils étaient morts. Il semble que Joseph n'ait pas réussi à transmettre la foi à ses fils, Manassé et Éphraïm. Par conséquent, ils devaient retrouver Dieu et le rencontrer, parce qu'ils avaient oublié la justice de Dieu. Alors Dieu leur a donné la justice qui vient de la foi en premier, puis leur a donné la loi après qu'ils aient oublié la foi. Il leur a donné la loi pour les ramener à lui. Pour sauver Israël, pour en faire son peuple, le peuple d'Abraham, il leur a dit de se faire circoncire. Son but en les appelant était premièrement d'établir la loi pour leur faire savoir qu'il y a Dieu, et deuxièmement, de leur faire savoir qu'ils étaient des pécheurs devant Dieu. Il désirait qu'ils reçoivent le salut à travers le sacrifice expiatoire que Dieu leur avait donné, qu'ils viennent devant Dieu et deviennent le peuple de Dieu. Et il en a fait son peuple. Le peuple d'Israël a été racheté par la loi, le système sacrificiel, en croyant au Messie qui devait venir. Mais le système sacrificiel s'était également estompé avec le temps. Voyons quand c'était. Dans Luc, chapitre 10, verset 25, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver. Le docteur de la loi était un pharisien. Les pharisiens étaient des gens conservateurs qui essayaient de vivre selon sa parole. Ils étaient des gens qui essayaient de protéger le pays d'abord, et ensuite de vivre selon sa loi. Et puis il y avait les zélotes qui étaient très impétueux et avaient tendance à recourir à des manifestations pour atteindre leur vision. Qui Jésus voulait-il rencontrer? Des pécheurs sans berger. Il y a des gens comme eux-mêmes aujourd'hui. Ils dirigent des mouvements sociaux avec des slogans comme « Sauver les opprimés du pays ». Ils croient que Jésus est venu pour sauver les pauvres et les opprimés. Alors, ils étudient la théologie dans des séminaires théologiques, participent à la politique, et essaient de, pour délivrer les opprimés, dans tous les domaines de la société. Ils sont ceux qui insistent, « Vivons tous selon la loi sainte et miséricordieuse. Conformez-vous à la loi, selon ses paroles. » Mais ils ne réalisent pas la véritable signification de la loi. Ils essaient de vivre selon la lettre de la loi, mais ils ne reconnaissent pas la révélation divine de la loi. On peut donc dire qu'il n'y avait pas de prophète, le serviteur de Dieu, pendant environ 400 ans avant Christ. De cette façon, ils sont devenus un troupeau de brebis sans berger. Ils n'avaient ni la loi ni un chef. Dieu ne s'est pas révélé à travers les dirigeants religieux hypocrites de cette époque. Le pays était devenu une colonie de l'Empire romain. Alors Jésus a dit aux gens d'Israël qui le suivaient dans le désert qu'il ne les renverrait pas affamés. Il a eu pitié du troupeau sans berger. Il y avait beaucoup de gens qui souffraient à cette époque. Essentiellement, les docteurs de la loi et d'autres personnes dans de telles positions étaient ceux qui avaient les droits acquis. Les pharisiens étaient de la lignée d'Israël, du judaïsme. Ils étaient très orgueilleux. Et ce docteur de la loi a demandé à Jésus dans Luc, chapitre 10, verset 25, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Il semblait au docteur de la loi qu'il n'y avait personne de meilleur que lui parmi le peuple d'Israël. Alors ce docteur de la loi, celui qui n'avait pas été racheté, l'a défié en disant « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Ce docteur de la loi n'est qu'un reflet de nous-mêmes. Il a demandé à Jésus « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui a dit « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ?» Alors il répondit et dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Il a mis Jésus au défi sans savoir qu'il était un être mauvais, une masse de péchés qui ne pourrait jamais faire le bien. Alors Jésus lui demanda, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Quelle est ta lecture de la loi ? Nous sommes des pécheurs qui ne pouvons jamais observer la loi. Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Luc, chapitre 10, versets 26 à 28. « Qui lis-tu ? » Cela signifie comment vous connaissez et comprenez la loi. Comme beaucoup de gens aujourd'hui, ce docteur de la loi pensait aussi que Dieu lui avait donné la loi pour qu'il observe. Alors il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » La loi était sans défaut. Il nous a donné une loi parfaite. Il nous a dit d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il est juste pour nous d'aimer notre Dieu de tout notre cœur et de toute notre force, mais c'était la parole sainte qui ne pouvait jamais être gardée. « Qui lis-tu ? » signifie que la loi est juste et correcte, mais comment la comprenez-vous ? Le docteur de la loi pensait que Dieu l'avait donnée pour qu'il lui obéisse. Mais la loi de Dieu a été donnée pour que nous puissions connaître nos faiblesses, exposer complètement nos iniquités. Elle expose nos péchés, tu as péché. Tu as tué quand je t'ai dit de ne pas tuer. Pourquoi m'as-tu désobéi ? La loi expose les péchés dans le cœur des gens. Supposons que sur le chemin ici, j'ai vu des pastèques mûres dans le champ. Dieu m'a averti par la loi, ne cueillez pas ces pastèques pour les manger. Cela me ferait honte si vous le faites. Oui, Père. Le champ appartient à monsieur un tel, et donc vous ne devriez jamais les cueillir. Oui, Père. Au moment où nous entendons par la loi que nous ne devons jamais les cueillir, nous ressentons une forte envie de les cueillir. Si nous appuyons sur un ressort vers le bas, il a tendance à nous pousser vers le haut en réaction. Les péchés des gens sont aussi comme ça. Dieu nous a dit de ne jamais faire le mal. Dieu peut dire cela parce qu'il est saint, parce qu'il est complet, parce qu'il a la capacité de le faire. D'un autre côté, nous ne pouvons jamais ne pas pécher et jamais faire le bien. Nous n'avons jamais de bien dans nos cœurs. La loi dit jamais, il a été stipulé avec le mot « jamais ». Pourquoi cela ? Parce que les gens ont de la convoitise dans leur cœur. Nous agissons selon notre convoitise. Nous commettons l'adultère parce que nous avons l'adultère dans nos cœurs. Nous devrions lire la Bible attentivement. Quand j'ai d'abord cru en Jésus, j'ai cru selon la parole. J'ai lu que Jésus est mort sur la croix pour moi, et je ne pouvais pas arrêter de pleurer. J'étais une personne si mauvaise, et il est mort sur la croix pour moi. Mon cœur me faisait tellement mal que j'ai cru en lui. Puis j'ai pensé, si j'allais croire, je croirais selon la parole. Quand j'ai lu Exode, chapitre 20, il était écrit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». J'ai prié en repentance selon cette parole. J'ai fouillé ma mémoire pour voir si j'avais jamais eu d'autre Dieu devant lui, invoqué son nom en vain, ou si je m'étais jamais prosterné devant d'autres dieux. J'ai réalisé que je m'étais prosterné devant d'autres dieux plusieurs fois pendant les rituels en l'honneur de mes ancêtres. J'avais commis le péché d'avoir d'autres dieux. Alors j'ai prié en repentance, « Seigneur, j'ai adoré des idoles. Je dois être jugé pour cela. S'il te plaît, pardonne mes péchés. Je ne ferai plus jamais une telle chose. » Par conséquent, un péché a été traité. J'ai alors essayé de réfléchir si j'avais jamais invoqué son nom en vain. Puis je me suis rappelé que quand j'ai commencé à croire en Dieu pour la première fois, je fumais. Mes amis m'ont dit, « Ne fais-tu pas honte à Dieu en fumant ? Comment un chrétien peut-il fumer ?» C'était invoquer son nom en vain, n'est-ce pas ? Alors j'ai prié encore, « Seigneur, j'ai invoqué ton nom en vain. S'il te plaît, pardonne-moi. J'arrêterai de fumer. » Alors j'ai essayé d'arrêter de fumer, mais j'ai continué à allumer et éteindre des cigarettes pendant un an. C'était vraiment difficile, presque impossible d'arrêter de fumer. Mais enfin, j'ai réussi à arrêter de fumer complètement. J'ai ressenti qu'un autre péché avait été traité. Le suivant était « Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. » Cela signifiait ne pas faire d'autre chose le dimanche, ne pas faire de commerce, ni gagner de l'argent. Alors j'ai arrêté ça aussi. Ensuite, il y avait cette parole « Honore ton père et ta mère ». Quand j'étais loin d'eux, je les respectais, mais quand j'étais près d'eux, j'étais pour eux une source d'inquiétude. « Ô mon Dieu, j'ai péché devant toi. Seigneur, je t'en prie, pardonne-moi. » J'ai fait une prière de repentance. Mais je ne pouvais plus honorer mes parents parce qu'ils étaient tous les deux morts à ce moment-là. Que pouvais-je faire ? Seigneur, s'il te plaît, pardonne ce pécheur sans valeur. Tu es mort sur la croix pour moi. Comme j'étais reconnaissant. De cette façon, je pensais avoir traité mes péchés un par un. Ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère, ne pas convoiter, il y avait d'autres lois aussi. J'ai réalisé que je n'avais gardé aucune d'entre elles. J'ai prié toute la nuit. Mais vous savez, prier en repentance n'est pas agréable. Parlons-en. Quand j'ai pensé à la crucifixion de Jésus, j'ai pu compatir à quel point c'était douloureux. Et il est mort pour nous qui ne pouvions pas vivre selon ses paroles. J'ai pleuré toute la nuit en pensant à combien il m'aimait, et je l'ai remercié de m'avoir donné un véritable plaisir. Ma première année à aller à l'église était généralement assez facile, mais les deux années suivantes sont devenues très difficiles, car je devais penser beaucoup plus intensément pour que les larmes coulent, puisque je pleurais si souvent. Quand les larmes ne venaient toujours pas, je suis souvent allée prier dans les montagnes et j'ai jeûné pendant 3 jours. Puis les larmes sont revenues. J'étais trempée de mes larmes, je suis retournée dans la société et j'ai pleuré dans l'église. Les gens autour de moi disaient « Tu es devenu tellement plus saint avec tes prières dans les montagnes. » Mais les larmes se sont de nouveau séchées. La troisième année est devenue vraiment difficile. Je pensais au tort que j'avais fait à mes amis et aux chrétiens collègues, et je pleurais à nouveau. Après 4 ans de cela, les larmes se sont de nouveau séchées. Il y avait des glandes lacrymales dans mes yeux, mais elles ne fonctionnaient plus. Après 5 ans, je ne pouvais plus pleurer, peu importe combien j'essayais. Après encore quelques années de cela, je suis devenue dégoûtée de moi-même et je me suis tournée à nouveau vers la Bible. La loi est pour la connaissance du péché. Que devons-nous réaliser à propos de la loi? Nous ne pouvons jamais garder la loi. Dans Romains, chapitre 3, verset 20, nous lisons « Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché ». J'ai considéré cela comme une parole personnelle adressée à l'apôtre Paul, et je n'ai cru que les paroles que j'ai choisies. Mais après que mes larmes se sont taries, je n'ai pas pu continuer ma vie de foi. Donc, j'ai continué à pécher et j'ai découvert que j'avais du péché dans mon cœur, et j'ai découvert que je ne pouvais pas vivre selon la loi. Je ne pouvais absolument pas le supporter. Mais je ne pouvais pas abandonner la loi parce que je croyais qu'elle avait été donnée pour être obéie. En fin de compte, je suis devenu un docteur de la loi, comme ceux que l'on voit dans l'Écriture. Il est devenu très difficile de continuer une vie de foi. Donc, pour échapper à la difficulté, j'ai prié et cherché le Seigneur avec ferveur. Par la suite, j'ai rencontré l'Évangile de l'eau et de l'Esprit à travers la parole, et j'ai appris et cru qu'il avait effacé tous mes péchés. Chaque fois que je voyais les mots que j'étais sans péché, c'était comme une brise fraîche soufflant dans mon cœur. J'avais tellement de péchés qu'en lisant la loi, j'ai commencé à réaliser ces péchés. J'avais violé tous les 10 commandements dans mon cœur. Pécher dans le cœur est aussi un péché, et j'étais devenu sans le savoir un croyant en la loi. Quand je respectais la loi, j'étais heureux. Mais quand je ne pouvais pas respecter la loi, j'étais misérable, irrité et triste. Finalement, je suis devenu hagard à cause de tout cela. Si seulement on m'avait appris dès le début, non, non. Il y a un autre sens à la loi. Elle vous montre que vous êtes un tamas de péchés. Vous adorez l'argent, le sexe opposé et les choses belles à regarder. Vous avez des choses que vous aimez plus que Dieu. Vous voulez suivre les choses du monde. La loi vous a été donnée, non pas pour que vous la respectiez, mais pour que vous vous reconnaissiez comme un pécheur avec le mal dans votre cœur. Si seulement quelqu'un m'avait enseigné à l'époque, je n'aurais pas eu à souffrir pendant 10 ans. Ainsi, j'ai vécu sous la loi pendant 10 ans jusqu'à ce que je parvienne à cette réalisation. Le 4e commandement est « Souviens-toi du jour du repos » pour le sanctifier. Cela signifie que nous ne devons pas travailler le jour du sabbat. Cela signifie que nous devons marcher, ne pas monter si nous voyageons sur de longues distances. Ainsi, je pensais que je devais marcher jusqu'à l'endroit où je devais prêcher pour obtenir de l'honneur. Après tout, j'étais sur le point de prêcher la loi. Ainsi, je pensais que je devais pratiquer ce que je prêchais. C'était si difficile que j'étais sur le point d'abandonner. Comme il est écrit ici, « Qui lis tu ? » Je n'ai pas compris cette question et j'ai souffert pendant 10 ans. Le docteur de la loi l'a également mal compris. Il pensait que s'il obéissait à la loi et vivait prudemment, il serait béni devant Dieu. Mais Jésus lui a dit « Qui lis-tu ? » « Oui, tu as bien répondu, tu le prends comme il est écrit. Essaie de le garder. Tu vivras si tu le fais, mais tu mourras si tu ne le fais pas. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu mourras si tu ne le fais pas. Le contraire de la vie, c'est la mort, n'est-ce pas ? » Mais le docteur de la loi ne comprenait toujours pas. Ce docteur de la loi, c'est nous, toi et moi. J'ai étudié la théologie pendant 10 ans. J'ai tout essayé, tout lu et tout fait, le jeûne, les illusions, parler en d'autres langues. J'ai lu la Bible pendant 10 ans et j'attendais d'accomplir quelque chose. Mais spirituellement, j'étais un aveugle. C'est pourquoi un pécheur doit rencontrer quelqu'un qui peut lui faire voir que le Sauveur est notre Seigneur Jésus. Puis il réalise que, ah, nous ne pouvons jamais garder la loi. Peu importe combien nous essayons, nous allons seulement en enfer en essayant. Mais Jésus est venu nous sauver avec l'eau et l'Esprit. Alléluia! Nous pouvons être rachetés par l'eau et l'Esprit. C'est la grâce, le don de Dieu. Alors nous louons le Seigneur. J'ai eu la chance d'obtenir mon diplôme d'une situation désespérée, mais certains passent toute leur vie en vain à étudier la théologie, et ne réalisent jamais la vérité jusqu'au jour de leur mort. Certains croient pendant des décennies ou de génération en génération, mais ne naissent jamais de nouveau. Nous nous rendons compte que nous ne pouvons jamais garder la loi, et nous nous tenons devant Jésus pour écouter l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors nous sortons de l'état de pécheur. Lorsque nous rencontrons Jésus, nous sommes libérés de tous les jugements et de toutes les malédictions. Nous sommes les pires pécheurs, mais nous devenons justes parce qu'il nous a sauvés par l'eau et le sang. Jésus nous a dit que nous ne pouvons jamais vivre selon sa volonté. Il a dit cela au docteur de la loi, mais il n'a pas compris. Alors Jésus lui a raconté une histoire pour l'aider à comprendre. Qu'est-ce qui fait que les hommes se corrompent dans la vie de foi? Le péché. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Luc, chapitre 10, verset 30. Jésus lui disait que tout le monde a souffert toute sa vie, tout comme cet homme a été battu par des voleurs et a failli mourir. Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Jéricho est le monde séculier, et Jérusalem symbolise la ville de la religion, la ville de la foi, la ville de ceux qui se vantent de la loi. Cela nous dit que si nous croyons en Christ comme notre religion, nous ne pouvons qu'être ruinés. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Jérusalem était une grande ville avec une population nombreuse. Il y avait un grand prêtre, une multitude de prêtres, des lévites et de nombreux hommes religieux éminents là-bas. Il y avait beaucoup de personnes qui connaissaient bien la loi. Là, ils essayaient de vivre selon la loi, mais échouaient finalement et se dirigeaient vers Jéricho. Ils continuaient à tomber dans le monde, Jéricho, et rencontraient des voleurs. L'homme a rencontré des voleurs en chemin de Jérusalem à Jéricho, et il a été dépouillé de ses vêtements. Être dépouillé de ses vêtements signifie qu'il a perdu sa justice. Il nous est impossible de vivre selon la loi. L'apôtre Paul a dit dans Romains, chapitre 7, versets 19 à 20, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je souhaite pouvoir faire le bien et vivre dans ses paroles. Mais dans car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. » Marc, chapitre 7, versets 21 à 22. « Parce qu'ils sont dans nos cœurs et qu'ils en ressortent continuellement, nous faisons ce que nous ne devrions pas faire, et nous ne faisons pas ce que nous voudrions faire. Nous continuons à répéter ces actes malfaisants dans nos cœurs. Ce que le diable doit faire, c'est nous donner seulement une petite impulsion pour nous faire pécher. Les péchés dans le cœur de toute l'humanité. Pouvons-nous vivre selon la loi? Non. Il est dit dans Marc, chapitre 7, « Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. » Jésus nous dit qu'il y a des pensées mauvaises, des adultères, des fornications, des meurtres, des vols, de la cupidité, de la méchanceté, de la tromperie, de l'impudicité, un mauvais œil, du blasphème, de l'orgueil et de la folie dans le cœur de l'homme. Nous avons tous le meurtre dans nos cœurs. Il n'y a personne qui ne tue pas. Les mères crient à leurs enfants, « Non, ne fais pas ça. Je t'ai dit de ne pas faire ça, espèce d'idiot. J'ai dit ne fais pas ça. Et puis, viens ici. Je t'ai dit et redit de ne pas faire ça. Je vais te tuer pour ça. » C'est un meurtre. Vous pouvez tuer vos enfants avec vos mots irréfléchis. Mais si nous déversons toute notre colère sur eux, les enfants mourront. Nous les aurons tués devant Dieu. Parfois, nous nous effrayons nous-mêmes. Oh mon Dieu! Pourquoi ai-je fait ça? Nous regardons les ecchymoses après avoir frappé nos enfants et pensons que nous devons avoir été fous pour faire cela. Nous agissons de cette manière parce que nous avons le meurtre dans nos cœurs. Ainsi, « je fais le mal que je ne veux pas » signifie que nous faisons le mal parce que nous sommes mauvais. Et il est si facile pour Satan de nous tenter de pécher. Disons qu'un homme qui n'a pas été racheté s'assoit dans une cabane pendant 10 ans, face à un mur et méditant comme Sung Chol, le grand moine coréen. C'est bien tant qu'il est assis face au mur, mais quelqu'un doit lui apporter de la nourriture et enlever les ordures. Alors il doit avoir contact avec quelqu'un. Ce ne serait pas un problème si c'était un homme, mais supposons que ce soit une belle femme. S'il la voit par hasard, tout son temps passé assis aura été en vain. Il pense, je ne devrais pas commettre d'adultère. Je l'ai dans mon cœur, mais je dois m'en débarrasser. Je dois le secouer. Non, sors de mon esprit. Mais sa résolution s'évapore au moment où il la voit. Après que la femme soit partie, il regarde dans son cœur. 10 ans de travail acharné, tout ça pour rien. Il est si simple pour Satan d'enlever la justice d'une personne. Tout ce que Satan doit faire, c'est leur donner une petite poussée. Lorsqu'une personne lutte sans être rachetée, elle continue de tomber dans le péché. Cette personne paie fidèlement la dîme chaque dimanche, jeûne pendant 40 jours, 100 jours de prière à l'aube. Mais Satan les tente avec les bonnes choses de la vie. J'aimerais vous donner un poste important dans l'entreprise, mais vous êtes chrétien et vous ne pouvez pas travailler le dimanche, n'est-ce pas? C'est une position tellement géniale. Peut-être pourriez-vous travailler 3 dimanches et aller à l'église seulement une fois par mois. Ensuite, vous pourriez jouir d'un prestige élevé et avoir un gros salaire. Qu'en pensez-vous? À cela, probablement 100 personnes sur 100 seront achetées. Si cela ne fonctionne pas, il y a ceux qui ont une faiblesse pour les femmes. Satan met une femme devant lui, et il tombe éperdument amoureux et oublie Dieu en un instant. C'est ainsi que la justice de l'homme est dépouillée. Si nous essayons de vivre selon la loi, tout ce que nous avons à la fin sont les blessures du péché, la douleur et la pauvreté. Nous perdons toute justice. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Cela signifie que bien que nous essayions de rester à Jérusalem en vivant selon la volonté du Saint Dieu, nous trébucherons encore et encore à cause de nos propres faiblesses, et nous serons ruinés. Et alors nous prierons en repentir devant Dieu. « Seigneur, j'ai péché. S'il vous plaît, pardonnez-moi, je ne le ferai plus jamais. Je vous promets que ce sera vraiment la dernière fois. Je vous supplie et implore de me pardonner juste cette fois. » Mais cela ne dure jamais. Les gens ne peuvent pas vivre dans ce monde sans péché. Ils peuvent peut-être l'éviter quelquefois, mais il serait impossible de ne pas pécher à nouveau. Les péchés sont donc à nouveau commis. Seigneur, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Si cela continue, ils s'éloigneront de l'Église, de la religion. Ils s'éloignent de Dieu à cause de leurs péchés et ils finiront en enfer. Voyager vers Jéricho signifie tomber dans le monde séculier, se rapprocher du monde et s'éloigner de Jérusalem. Au début, Jérusalem est encore plus proche. Cependant, à mesure que l'acte de péché et de se repentir se répète, nous nous retrouvons debout dans les rues de Jéricho, profondément plongés dans le monde. Qui peut être sauvé? Ceux qui renoncent à essayer par eux-mêmes. Quel homme a-t-il rencontré sur son chemin vers Jéricho? Il a rencontré des voleurs. Celui qui ne vit pas selon la loi devient un chien méprisable. Il boit, s'endort n'importe où, urine n'importe où. Ce chien se réveille le lendemain et boit à nouveau. Un chien méprisable mange ses propres excréments. C'est pourquoi il est un chien. Il sait qu'il ne devrait pas boire. Il se repent le lendemain matin, mais boit à nouveau. C'est comme l'homme qui a rencontré des voleurs en chemin vers Jéricho. Il est laissé derrière, blessé et presque mort. Il n'y a que le péché dans son cœur. Voilà ce qu'est un humain. Les gens croient en Jésus et vivent selon la loi à Jérusalem, mais ils sont laissés avec seulement le péché dans leur cœur. Tout ce qu'ils ont à montrer pour leur vie religieuse, ce sont les blessures du péché. Ceux qui ont le péché dans leur cœur sont jetés en enfer. Ils le savent, mais ne savent pas quoi faire. N'y avons-nous pas été vous et moi aussi? Oui. Nous étions tous les mêmes. Le docteur de la loi qui a mal compris la loi de Dieu passerait sa vie à lutter, mais finirait en enfer, blessé. Il est nous, toi et moi. Seul Jésus peut nous sauver. Il y a tellement de gens intelligents autour de nous, et ils ne cessent de montrer ce qu'ils savent. Ils font tous semblant de vivre selon la loi de Dieu. Ils ne peuvent pas être honnêtes avec eux-mêmes. Ils ne peuvent pas dire franchement ce qui est juste ou faux, et sont toujours empressés de soigner leur apparence extérieure pour paraître fidèles. Parmi eux, il y a des pécheurs en route pour Jéricho, ceux qui sont battus par des voleurs, et ceux qui sont déjà morts. Nous devons savoir à quel point nous sommes fragiles devant Dieu. Nous devrions admettre devant lui, « Seigneur, j'irai en enfer si tu ne me sauves pas. S'il te plaît, sauve-moi. J'irai où tu veux, qu'il grêle ou qu'il tempête, si tu me permets d'entendre le véritable évangile. Si tu me laisses, j'irai en enfer. Je t'en supplie, sauve-moi. » Ceux qui savent qu'ils vont en enfer, ceux qui abandonnent d'essayer par eux-mêmes et s'accrochent au Seigneur, ce sont ceux qui peuvent être sauvés. Nous ne pouvons jamais être sauvés par nous-mêmes. Nous devons savoir que nous sommes comme l'homme qui est tombé parmi les voleurs.